Philosophie politique par le père Philippe Saint-Joseph, le 18 décembre 1984.
Avant de passer à Aristote, on a posé une question sur la République de Platon et le mythe de la caverne, en se demandant si le mythe de la caverne n'était pas pour nous le lieu de comprendre les liens entre l'éthique et la politique chez Platon. Alors, je crois que c'est très juste, c'est que c'est là où on comprend comment éthique et politique chez Platon sont inséparables. Ce n'est pas le seul lieu, hein, comprenons bien, parce que je crois que déjà à la recherche de la justice, les petites lettres et les grandes lettres sont assez significatives. Alors, je crois qu'on pourrait mettre les deux textes en parallèle. Si vous voulez faire ce petit parallélisme comme ça, pour essayer de comprendre éthique et politique, puisque c'est un des sujets, quand même, une des grandes interrogations que nous nous posons dans ce cours de philosophie politique. Alors, petite lettre. Ça, c'est l'individu. Ça, c'est l'État. Donc, l'aspect politique, l'aspect éthique, personnel. Et vous voyez qu'immédiatement, il y a ce dépassement du bien en soi. La contemplation du bien en soi. Alors, vous avez deux aspects pour l'éthique personnelle, l'individu et la personne. Si je prends un style particulier. Je dirais que la contemplation du bien en soi, c'est vraiment le terme, la finalité. L'éthique personnelle aboutit à cela. La justice, c'est la personne en tant qu'elle est partie d'un tout. Donc c'est bien l'individu. Partie d'un tout. Et le tout, c'est la politique. Vous auriez donc ces trois dimensions, l'individu parti d'un tout, il est évident que le tout est plus grand que la partie. Et donc la justice est écrite en grandes lettres dans le tout et en petites lettres dans la partie. Mais vous pouvez comprendre aussi qu'au-delà de la justice, il y a le bien en soi, et le bien en soi est contemplé par le philosophe. Alors, vous auriez l'éthique du philosophe, l'éthique politique et l'éthique de l'individu. J'espère que vous voyez. C'est intéressant parce que ça permet de comprendre qu'on est parti de la communauté à cause du corps et la contemplation, c'est là. Alors, vous pourriez dire, il y a l'éthique de l'âme contemplative, c'est la contemplation. L'éthique de l'âme unie au corps, on est parti d'un tout qui est le point de vue politique. Alors, dans cette perspective, l'éthique de l'individu est dépendante de l'éthique politique, et l'éthique politique est dépendante de l'éthique de l'âme contemplative. Et il y a toujours les trois niveaux dans Platon. Toujours. Vous ne pouvez pas résumer Platon en deux niveaux. Il y a toujours les trois niveaux. Le niveau de l'individu, le niveau politique, le niveau contemplatif. Je prends maintenant le mythe de la caverne. Pour faire un parallèle, le mythe de la caverne. Dans le mythe de la caverne, vous avez bien l'individu. L'individu qui, lui, ne regarde que l'aspect phénoménal des choses, le vraisemblable, les apparences. L'individu, il est lié aux apparences. Le contemplatif, il sort de la caverne, il peut contempler le soleil, c'est-à-dire le bien en soi. Il voit tout de l'intérieur. Lui, il voit tout de l'extérieur. intériorité, extériorité. Alors, celui qui contemple est sorti de la caverne, mais il doit y rentrer pour éduquer ces pauvres individus et leur faire comprendre que ce qu'ils voient, ce ne sont que des apparences et qu'ils doivent découvrir autre chose. Et alors, en rentrant dans la caverne, c'est l'homme politique. Puisque c'est la paille des yens, c'est l'éducation. L'éducation relève de l'homme politique. Donc vous retrouvez bien les trois niveaux. Vous retrouvez l'individu perdu dans la caverne, vous retrouvez le contemplatif, le philosophe contemplatif, donc l'âme spirituelle qui contemple le soleil, c'est-à-dire le bien en soi, et il doit revenir faire son œuvre politique, éduquer l'individu pour lui permettre de sortir des apparences et découvrir la réalité. Alors, selon le mythe de la caverne, vous avez donc le point de vue contemplation qui n'est pas et ne peut pas s'achever sans une certaine dépendance par rapport à l'aspect politique. Vous pouvez mettre en parallèle, vous retrouvez les mêmes choses, c'est l'aller et le retour, d'une certaine manière. Ici, c'est l'aller, et là, c'est le retour. Vous avez l'aller, la dépendance, la démarche inductive pour découvrir ce que c'est que la justice, et en définitive, vous découvrez la justice que par le bien en soi. Vous avez donc les graduations d'une morale individuelle. La morale individuelle, au fond, l'éthique individuelle, pratiquement n'existe pas. On l'affirme, mais elle n'existe pas. L'éthique n'existe qu'au niveau politique et au niveau contemplatif. Et l'aspect contemplatif ne peut pas se séparer du point de vue politique. Il doit nécessairement venir. Vous voyez bien ça, hein, c'est des questions posées là tout de suite, puisqu'on va retourner à un autre passage, mais c'est pour essayer de saisir les rapports entre l'éthique et la politique. Vous voyez bien que dans la perspective de Platon, il n'y a pas de politique sans éthique. Il n'y a pas de politique sans l'attitude religieuse. Il le dit textuellement. Puisque la loi première doit être une loi qui regarde l'adoration et les cultes. Premier ministre de l'Intérieur, le ministre des cultes. Pour Platon, c'est très net, c'est le premier ministre. Et c'est celui qui doit respecter que Dieu est bon. Et doit réaffirmer que Dieu est bon. Pas d'éducation sans l'adoration. Pas d'éducation sans l'attitude religieuse. Donc, pas de politique sans l'aspect éthique. Ça, c'est bien évident. Mais l'aspect politique n'est pas ultime, il y a l'aspect contemplatif. Et l'aspect contemplatif doit nous permettre de dépasser l'aspect politique pour découvrir le bien en soi. Ayant découvert le bien en soi, on revient au point de vue politique. Mais ça ne veut pas dire que le point de vue politique finalise le point de vue de la contemplation. Ça veut dire qu'il y a un lien par l'homme. Je reste homme tout en étant contemplatif. Et en tant qu'homme, je dois revenir à mes semblables, qui sont dans l'errance. Vous voyez ? Et la contemplation en elle-même a un absolu. Ça, faut pas. Il y a un absolu de la contemplation. Et ce n'est pas un au-delà du point de vue politique. Bon. Nous allons maintenant entrer dans la politique d'Aristote. C'est un gros morceau, c'est évident. Je vous demande pas de lire. Je vous ai dit d'essayer de lire La République de Platon, dans la mesure où vous pouvez lire quand vous avez un peu de temps. C'est bon d'avoir comme livre de chevet Platon. Quand on est un peu fatigué, ayez du Platon. Ça se lit facilement. Mais il faut le lire avec intelligence. Hein. Faut pas lire Platon comme vous lisez le roman feuilleton de la Croix. Non, il faut lire Platon avec quand même un intérêt particulier, c'est-à-dire essayer de comprendre tout ce qui est impliqué dedans. Aristote, on le lit en l'analysant. Vous allez voir. Alors, inutile de vous situer Aristote, vous le connaissez suffisamment, j'espère, disciple de Platon pendant 20 ans, c'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Et donc, il y a une communication de Platon à travers Aristote qui est constante. C'est impossible de relever tout ce qu'Aristote a reçu de Platon. Je crois que c'est impossible. Mais on le voit constamment. Et en même temps, on s'aperçoit qu'Aristote a assimilé Platon d'une manière toute personnelle qui fait que ce n'est plus du Platon. Alors, au niveau politique, c'est très, très remarquable. Je vais essayer de vous souligner de temps en temps un tout petit peu. Alors, la première chose qu'il faudrait faire, hein, quand on regarde Aristote après Platon, la première chose qu'il faut faire, c'est tout de suite de regarder le livre 2. Mais il ne faut pas commencer par le livre 1, il faut commencer par le livre 2. Et regarder la critique qu'Aristote fait de Platon, parce que c'est toujours quand un philosophe critique un autre philosophe qu'on saisit mieux ses dents, qu'on saisit mieux son irascible, qu'on saisit mieux ce qu'il veut dire. Il attaque Platon. Il l'attaque avec force. En montrant comment la communauté des femmes entre tous les citoyens soulève beaucoup de difficultés. Entre autres, celle-ci. La raison pour laquelle, au dire de Socrate, ce mode de vie doit être établi par voie législative, n'apparaît pas comme une conséquence découlant de ses arguments. Vous voyez, critique interne. Très astucieux. Ça, c'est vraiment la critique interne. Plaçons-nous dans la perspective de Platon et voyons si c'est logique. Eh bien non, c'est pas logique. Donc, c'est passionnel. C'est ça que ça veut dire. C'est dit gentiment. Mais c'est le syllogisme de l'ivrogne. Aristote est très sensible au syllogisme de l'ivrogne. Vous connaissez le syllogisme de l'ivrogne. Le syllogisme de l'ivrogne, nous le connaissons tous. À la place d'avoir trois termes, il en a quatre. Je suis bien décidé. Il est mauvais pour moi de boire de trop. Très, très décidé. Affirme la majeure. Tout le monde est d'accord là-dessus. Cette bouteille, j'en ai jamais vu de pareille. Prenons-en. Mais j'ai dit à la majeure, il faut plus prendre d'alcool. Il ne faut surtout plus prendre d'alcool. Mais, vous voyez. Alors, il y a pratiquement quatre termes. Il y a la bouteille unique qui apparaît. Et la bouteille unique qui apparaît, elle éveille la passion. Elle fait que. C'est très curieux, quand vous lisez beaucoup d'articles de journalistes, je n'ai rien contre, mais je n'ai beaucoup. Vous voyez le syllogisme de l'ivrogne. Ça arrive très très souvent, très souvent. Ça, ce sera un bon exercice. Lire la croix, et voyant les syllogismes de l'ivrogne, voir constamment qu'il y a quelque chose qui colle pas, quelque chose qui va pas. Alors j'ai des traits des journalistes très très distingués, on a beaucoup plus de peine à distinguer le syllogisme de l'ivrogne, mais on le découvre. Alors vous voyez ce que dit Aristote ici. La raison pour laquelle, au dire de Socrate, ce mode de vie doit être établi par voie législative, n'apparaît pas comme une conséquence découlant de ses arguments. De plus, pour atteindre la fin qui, selon lui, doit être attribué à la cité, son plan, tel qu'il résulte présentement du dialogue, est inapplicable. Et quant à la façon dont nous devons l'interpréter, elle n'a été nulle part bien déterminée. Je veux parler de la proposition suivant laquelle l'unité la plus parfaite possible est, pour toute cité, le plus grand des biens. Socrate prend comme position de base. Ça, c'est la formalisation d'Aristote par rapport à la République. Ce que je cherchais, vous ne trouverez pas le principe émis par Socrate. Mais ça, c'est la formalisation. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, vous voyez bien, pour Aristote, l'unité de base de la République, l'unité la plus parfaite possible est, pour toute cité, le plus grand des biens. Cependant, il est évident que le processus d'unification se poursuivant avec trop de rigueur, il n'y aura plus d'État. Donc ce principe de base de la cité supprime la cité. Voilà la manière dont Aristote, en faisant ça, fait que tout ce qui est dit dans la République saute. Parce que c'est l'unité de base. Oui, c'est ça la critique intelligente d'Aristote. Hein. C'est très, très, très intelligent comme manière de critiquer. On peut être d'accord ou pas être d'accord, mais on voit tout de suite. Il a essayé de saisir sur quoi se fonde la République de Platon. Quelle est la finalité qui commande toute la République de Platon ? Bien, toute la République de Platon est commandée par un principe, l'unité la plus parfaite possible est, pour toute cité, le plus grand des biens. Donc, identification entre l'un et le bien. Alors, la critique est évidente, cependant, il est évident que le processus d'unification se poursuivant avec trop de rigueur, il n'y aura plus d'État, car la cité est par nature une pluralité. La cité est une koinonia, la cité est une pluralité, c'est une communauté la cité. Si la cité est une communauté, toute communauté implique une multiplicité ordonnée, mais une multiplicité. Si vous ramenez tout à l'unité, il n'y aura plus de multiplicité, donc il n'y aura plus de cité. Car la cité est par nature une pluralité, et son unification étant par trop poussée, de cité, elle deviendra famille, et de famille, individu. Donc, au fond, on part de l'individu et on revient à l'individu. On part de l'individu et on revient à l'individu. Puisque de fait, on ne respecte pas ce que représente la communauté comme telle. Puisqu'on tend non pas vers l'union et l'harmonie des citoyens, mais on tend vers l'unité. Or, l'unité, elle n'existera que chez l'individu. Donc, l'individu seul demeurera. Par conséquent, en supposant même qu'on soit en mesure d'opérer cette unification, donc en supposant que ça puisse s'appliquer, en supposant même qu'on soit en mesure d'opérer cette unification, on doit se garder de le faire, car ce serait conduire la cité à sa ruine. La cité est composée non seulement d'une pluralité d'individus, mais encore d'éléments spécifiquement distincts. Une cité n'est pas formée de parties semblables, car autre est une symmachie et autre une cité. Simplement un assemblage, et puis proprement la cité. En effet, l'utilité de la première tient au nombre de ses membres, même s'il n'y a entre eux aucune diversité spécifique. Il en est comme d'un poids plus lourd qui pèse davantage. Plus vous en ajoutez, plus ce sera multiple. Mais ça ne veut pas dire que ce sera une cité. Mais les éléments dont une unité est constituée doivent différer spécifiquement. C'est pourquoi l'égalité réciproque et la sauvegarde des États, ainsi que nous l'avons antérieurement indiqué dans l'éthique. Donc, je crois que ce n'est pas la peine de voir plus. C'est simplement de voir qu'Aristote attaque la République de Platon par, j'allais dire, le noyau central. Nous allons maintenant essayer d'entrer dans ce qu'Aristote nous dit sur le point de vue de la politique. Aristote va commencer, et c'est peut-être cela qui montre le caractère tout à fait nouveau de sa politique par rapport à Platon, On ne commence pas par l'individu, mais on commence par la famille. Ça, c'est l'originalité d'Aristote. Il faudra se demander pourquoi. Nous voyons que toute cité est une sorte de communauté. Ça, la police, la cité, est une sorte de communauté. Koinonia. Et que toute communauté est constituée en vertu d'un certain bien. Alors, parallélisme, vous voyez que tout de suite, c'est la question du bien et pas de l'un. Hein? Donc, vous voyez tout de suite deux spiritualités totalement différentes. La spiritualité de l'un et la spiritualité du bien. Vous savez, vous êtes très sensible à ça pour comprendre justement tout ce qu'Aristote va nous dire progressivement. Nous sommes en face d'une philosophie de la communauté. Toute communauté est en divers biens. Et la diversité des communautés va impliquer divers biens. Il y a un lien. Le bien, c'est bien la finalité. Une communauté tout de suite ordonnée vers le point de vue du bien. En vue d'un certain bien, car c'est en vue d'obtenir, ce qui lui apparaît comme un bien, que tous les hommes accomplissent toujours leur acte. Si la communauté est un ensemble d'actes humains, vous voyez la raison, il explicite pourquoi communauté égale bien. C'est parce que l'activité humaine, toute activité humaine comme activité humaine, est ordonnée vers le bien, l'éthique. L'éthique est présente là. L'activité est ordonnée vers le bien. Or, la communauté, c'est un tissu d'activité humaine. C'est des relations, des rapports entre relations humaines. Il y a des relations d'activité humaine. Et l'activité humaine est ordonnée vers le bien, donc la communauté est ordonnée vers le bien. C'est donc en voyant que la communauté implique l'activité humaine, et que l'activité humaine est ordonnée au bien, que je peux dire que toute communauté est ordonnée au bien. Vous croyez que c'est capital, ça? Ça, c'est le noyau premier d'Aristote comparativement à Platon. C'est que pour qu'il y ait communauté, il faut qu'il y ait coopération. Aristote ne le dit pas ici, mais il le dira ensuite. Pour qu'il y ait communauté, il faut qu'il y ait coopération. Coopération d'activité humaine. Donc un lien entre les activités humaines. Diverses activités humaines qui sont unies, ordonnées. Comme l'activité humaine est ordonnée vers le bien, nécessairement, la coopération est ordonnée vers le bien. Il en résulte clairement que si toutes les communautés visent un bien déterminé, celle qui est la plus haute de toutes et englobe toutes les autres, vise aussi plus que les autres un bien qui est le plus haut de tous. Cette communauté est celle qui est appelée cité, c'est la communauté politique. Donc, tout de suite, on montre qu'il s'agit d'une communauté parfaite. On ne va pas étudier, et ça c'est toujours très intéressant au point de vue philosophique, on ne va pas étudier une communauté n'importe laquelle. On va étudier une communauté parfaite. La communauté qui est la plus communauté. Maxime Etané, la communauté parfaite. Comme toute communauté regarde le bien, la communauté parfaite regarde le bien par excellence. Le bien suprême. Vous allez me dire, le bien suprême, c'est Dieu. Attention, on ne le dit pas. On dit simplement, cette communauté est celle qui est appelée cité, police. C'est la communauté politique. Alors, c'est la première affirmation. On entre donc dans l'aspect communauté. Platon part de l'individu, Aristote tout de suite part de la communauté. et voit dans la communauté du plus et du moins, et dit qu'on regarde tout de suite la communauté la plus parfaite. Ceux donc qui croient que chef politique, chef royal, chef de famille et maître d'esclaves sont une seule et même notion s'expriment d'une manière inexacte. Ils s'imaginent en effet que ces diverses formes d'autorité, alors ce qui est très intéressant, c'est que tout de suite, qui dit communauté fait appel à autorité. Ce n'est pas dit, mais c'est expliqué, puisqu'il y a un lien entre les deux. On parle de la communauté à l'autorité. Et on voit tout de suite la diversité des autorités. Les autorités sont diverses. Ce sont les barbares, comme dira Aristote, ce sont les barbares qui confondent l'autorité royale du père de famille avec l'autorité politique. Ça, c'est le propre du barbare. Et le barbare, c'est l'opposé au grec, hein, faut pas l'oublier. Parce qu'on est encore justement dans cette opposition entre les deux. Donc, ceux qui croient que chef politique, le premier, celui qui commande, le chef, c'est celui qui est capable de commander. C'est la définition même du chef. Chef royal, chef de famille et maître d'esclaves sont une seule et même notion, s'expriment d'une manière inexacte. Ils s'imaginent en effet que ces diverses formes d'autorité ne diffèrent que par le nombre plus ou moins grand des individus qui y sont assujettis, mais qu'il n'existe entre elles aucune différence spécifique. Par exemple, si ces assujettis sont en petit nombre, on a affaire à un maître. S'ils sont plus nombreux, c'est un chef de famille. S'ils sont plus nombreux encore, un chef politique ou un roi. Comme s'il n'y avait aucune différence entre une grande famille et une petite cité. Très très joli. La question du nom. La question du nom ne donne pas de différence. Il y a une question de bien différent. C'est par le bien que je spécifie une communauté. Une communauté se distingue d'une autre par la question du bien. Et comme toute communauté implique nécessairement l'autorité, il y a un premier, dans toute autorité, il y a un ordre. S'il y a un ordre, il y en a donc un qui joue le rôle d'autorité. La fonction d'autorité, il est le premier. Et donc, il y aura une diversité à l'intérieur des premiers, à l'intérieur de ceux qui exercent le point de vue de l'autorité comme telle. Quant à la politique et royale, la distinction serait celle-ci. Si un seul homme est personnellement à la tête des affaires, c'est un gouvernement royal. Si au contraire, conformément aux règles de cette sorte de science, le citoyen est tour à tour gouvernant et gouverné, c'est un pouvoir proprement politique. En fait, ces distinctions n'ont aucune réalité. Il laisse tomber ça. On s'apercevra clairement de la méprise en examinant la matière à traiter selon la méthode qui nous a guidés jusqu'ici. Vous voyez, il montre d'abord les deux aspects, communauté, le bien, autorité. Diversité dans l'autorité, et que cette diversité dans l'autorité est spécifique. Comment comprendre cela ? Alors revenons à une méthode saine. De même en effet que dans les autres domaines, il est nécessaire de poursuivre la division du composé jusqu'à ses éléments incomposés, qui sont les plus petites parties du tout. De même aussi pour la cité. En considérant les éléments dont elle se compose, nous apercevrons mieux en quoi les diverses formes d'autorité diffèrent les unes des autres, et verrons s'il est possible d'obtenir quelques résultats positifs pour tout ce que nous venons de dire. Donc nous sommes en présence d'un tout. N'importe quel tout est confus tant que je n'ai pas la connaissance de ces éléments. Donc Aristote rappelle ici une méthode très simple, la méthode de division. Vous voyez, ça c'est très très intéressant parce que c'est la méthode commune entre Aristote et Platon. Mais nous savons qu'Aristote dira que la méthode de division n'est pas tout. Ça, il le dit dans le premier livre des parties des animaux. Parce que c'est dans le premier livre des parties des animaux où Aristote fait le mieux la critique de la méthode de division. Or, si je prends un tout petit peu matériellement ici ce qu'il nous dit, je dirais que c'est encore très platonicien. Mais c'est pas platonicien du tout, pourtant. Alors c'est ça qu'il faut bien faire. C'est pas platonicien du tout, parce que je vois communauté ordonnée au bien, et non pas à l'homme. Et je vois tout de suite autorité et diversité d'autorité. Donc je suis en face d'une certaine analogie. Il y a diverses manières d'exercer l'autorité. C'est pas du tout dialectique comme pensée. C'est tout de suite la diversité et l'unité. Donc on est en présence d'une certaine méthode analogique. Mais ce qu'il y a de juste, c'est qu'Aristote se met à parler d'une méthode. Il dit, lorsque je suis en présence d'un tout, ce tout reste confus tant que je n'ai pas saisi les éléments. Ça, c'est commun à Aristote et Platon. La division. Tu restes. La division est commune à la dialectique et à l'analogie. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Il y a un petit quelque chose de commun qui permet par le fait même de critiquer la dialectique et de comprendre ce que c'est que la méthode analogique. Alors c'est pour ça que ce petit passage est très intéressant. Très intéressant au point de vue historique, pour voir les liens entre Platon et Aristote, et très intéressant pour bien comprendre ce qu'est la méthode philosophique d'Aristote. Aristote ne peut pas se contenter de décrire ce que fait Platon. Il veut analyser. Or, analyser, c'est diviser. Et on voit tout de suite la pénétration d'un esprit dans la manière dont il divise. Je vous ai toujours dit, hein, deux manières de couper le poulet. Vous le coupez selon ses articulations, vous le coupez avec un sécateur. Pensez ça, et vous allez tout de suite comprendre ce qu'Aristote nous dit ici. Quand vous voyez le tout, qui est la communauté, il s'agit de l'analyser pour trouver les éléments. N'allez pas couper ce tout n'importe comment. Il s'agit de trouver quel est l'élément de ce tout qui est la communauté. Quel est l'élément ? Dans ces conditions, si on considérait les choses à partir de leur origine, dans leur développement naturel, comme on le fait dans les autres domaines, nos présentes investigations elles-mêmes apparaîtraient aussi, ainsi au regard sous l'angle plus favorable. C'est aussi très intéressant. C'est encore très proche de Platon. Vous voyez comme c'est proche de Platon ce début. Et en même temps très différent. C'est quand même proche de Platon puisque de fait la méthode génétique est chez Platon quelque chose de très important. Alors si on veut, dans leur développement, dans ces conditions, si on considère les choses à partir de leur origine, c'est-à-dire ex arché, à partir du principe, à partir du point de départ, dans leur développement naturel, comme on le fait dans les autres domaines, nos présentes investigations elles-mêmes apparaîtraient ainsi au regard sous l'angle plus favorable. La première union nécessaire, donc, cherchons selon l'ordre génétique. On cherche l'élément, l'élément premier de la communauté. On prend un ordre de division, et à cet ordre de division, on va prendre un ordre d'origine. Parce que le tout peut se diviser diversement. Alors on prendra première division du tout, l'origine. Les deux se tiennent, viennent se préciser l'une l'autre. La première union nécessaire est celle de deux êtres qui sont incapables d'exister l'un sans l'autre. C'est le cas pour le mâle et la femelle en vue de la procréation. Donc, point de départ de toute la politique d'Aristote, le problème de la procréation. Alors que chez Platon, si vous regardez attentivement la République, le point de départ, c'est pas ça du tout. La procréation apparaît, oui, c'est sûr que la procréation apparaît, c'est le besoin de la nourriture. Alors, évidemment, il faut essayer de comprendre ici, dans le réanimant d'Aristote. Aristote parle de la vie végétative. Il parle de la vie sensible. Il parle de la vie de l'esprit. Ça, c'est l'homme vivant. C'est sous-jacent à toute la philosophie pratique. Toute la philosophie pratique, c'est-à-dire l'éthique et la politique, implique le déanimant. Dans le déanimant, si vous regardez attentivement la vie végétative, vous voyez que l'aliment joue un rôle capital. Parce que c'est l'aliment qui spécifie ma vie végétative. Et Aristote présente l'aliment comme le besoin premier pour le vivant. Le vivant a besoin de se nourrir. C'est la première opération. Il a besoin de se nourrir. Et c'est le point de vue de la nutrition qui est première. Platon prend le point de départ de la politique comme le point de départ de la philosophie du vivant. C'est exactement le même point de départ. C'est important, c'est intéressant à voir ça. Parce qu'Aristote vient après. Il montre qu'il y a quelque chose de juste dans ce que dit Platon. C'est bien évident. Le premier besoin, c'est la nourriture. Ça avait été votre premier besoin. Vous avez crié pour avoir votre biberon. Et vous vous en rappelez. Et vous continuez de le faire. Quand vous oubliez que vous êtes un peu plus grand. Mais c'est le retour au berceau. C'est le besoin premier. Le lait maternel, le lait, première nourriture. On a tous crié pour le lait. Et alors il y a une espèce de détermination fondamentale dans la vie végétative. Ça, c'est tout à fait juste au point de vue analyse de la vie végétative. Ce qui est vrai du côté de la vie végétative, Platon le dit du côté de la vie politique. Oui, comme c'est intéressant, parce que ça fait comprendre qu'il y a quelque chose de juste. Au point de vue de l'individu, c'est très très juste, le premier besoin c'est la nourriture. Au point de vue communauté, attention, Platon avait oublié qu'avant ce besoin, il y a eu quand même, il y a eu les parents. Platon, il le nie, on dirait qu'il les a mis entre parenthèses, ses parents. Il considère le premier besoin de l'individu. Mais avant qu'il y ait l'enfant qui a besoin de l'aliment, il y a les parents. Donc ce n'est pas du tout premier. Dans l'ordre humain, il y a les parents qui sont avant. Et c'est ce que dit Aristote ici. Premier moment de la vie communautaire, de la vie politique, c'est la procréation. C'est la première coopération. La coopération la plus fondamentale et la plus naturelle, c'est la coopération du mâle et de la femelle en vue de la procréation. Alors, mettez ça en parallèle pour réfléchir sur la distinction que fait Aristote entre connaissance spéculative et connaissance pratique. Et la confusion que fait Platon entre connaissance spéculative et connaissance pratique. La confusion qu'il fait dans un regard uniquement du vivant et celui qui fait partie d'une communauté politique. Est-ce que c'est le vivant comme tel qui fait partie de la communauté politique ? Non. C'est un œcuménisme très très beau celui-là, mais c'est pas ça qui fait le point de vue politique. Ce qui fait le point de vue politique, c'est un acte humain. Or, le besoin de l'aliment est-il un acte humain ? Non. C'est un acte animal. L'animal fait la même chose que nous. C'est ce que dit Aristote, cette petite phrase excellente, hein, quand il dit « Tout ce qui est commun entre l'animal et l'homme n'est pas spécifiquement humain. » Ça, c'est merveilleux, ça. Ça nettoie pas mal de... Tout ce qui est commun entre l'animal et l'homme n'est pas spécifiquement humain. Alors, qu'est-ce qui est spécifiquement humain ? C'est de vivre en communauté. Ça, c'est spécifiquement humain. Avoir besoin du lait maternel, c'est pas spécifiquement humain. Non. Il y a des petits animaux qui en ont besoin aussi. Le besoin de l'aliment n'est pas spécifiquement humain. Alors, fonder une communauté humaine sur un besoin qui n'est pas spécifiquement humain, c'est tout à fait à côté. Mais alors là, vous le voyez tout de suite, et c'est ça qui est intéressant, si on compare, hein, c'est pour ça qu'il fallait voir d'abord la République, bien comprendre le point de départ tel que Platon le donne dans la République, le point de départ politique et le point de départ d'Aristote. Aristote a eu soin de rappeler, de façon très nette, hein, très simple, toute communauté humaine implique des rapports d'activité humaine, implique une coopération d'activité humaine. S'il n'y a pas de coopération d'activité humaine, il n'y a pas de communauté humaine. Or, le besoin de l'aliment est-il une coopération ? Non, non. C'est tout simplement l'imperfection du vivant. Le vivant a besoin de gémir après sa nourriture, crie après sa nourriture. C'est la définition du vivant. Il appelle, il a besoin de sa nourriture. Et ça, c'est pas humain. C'est infra-humain, c'est tout ce que vous voulez. C'est le vivant. Et le jour où il ne crie plus après sa nourriture, il ne vit plus. Ça va plus. Mais il a besoin de ça. Alors, c'est pour que vous compreniez tout de suite, dès le point de départ, la diversité des deux. Oui, vous avez l'air de prendre la même méthode, vous employez la même méthode. Mais si vous regardez attentivement la même méthode, vous allez vous dire ça être deux choses tout à fait différentes. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on analyse ? La communauté. C'est ça qu'on analyse. Pour saisir l'élément, il faut voir le tout. C'est la communauté humaine qu'on a. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté humaine ? Elle existe, cette communauté humaine. Regardez-la. Quel est l'élément de la communauté humaine ? C'est la coopération. La coopération, laquelle est-elle la première ? La procréation. Alors vous voyez comment on arrive dans la déduction, par la division, aboutir nécessairement à l'origine de toute communauté humaine, c'est donc la famille. Puisque la première coopération, c'est la coopération pour la procréation. Tandis que chez Platon, c'est très très important, c'est pour ça que j'insiste un peu, parce que c'est des choses tellement actuelles, ça. C'est des choses tellement actuelles. Hein. Quel est le point de départ d'une communauté humaine, d'une communauté politique ? Est-ce l'individu ? Est-ce la famille ? Il faut pouvoir le justifier. Vous aurez à le justifier. Hein. Parce qu'on a même on aura nécessairement à essayer de faire la philosophie de la famille. Ça ne peut pas être autrement, dans un monde qui ne sait plus du tout ce que c'est. Et on aura à faire la théologie de la famille, le Saint-Père nous le demande. Alors si on a à faire la théologie de la famille, il faut faire la philosophie. Vous ne pouvez pas faire la théologie de la famille si vous n'avez pas fait avant la philosophie de la famille. Pour comprendre comment la famille se retrouve après dans un autre point. Et alors, c'est intéressant de voir ce point de départ, hein. C'est le cas pour le mâle et la femelle en vue de la procréation. Et cette union n'a rien d'arbitraire. Mais comme dans les autres espèces animales et chez les plantes, il s'agit d'une tendance naturelle à laisser après soi un autre être semblable à soi. L'appétit d'éternité. C'est ce qui explique la procréation. Un être individuel qui est dans le temps, eh bien, il a un appétit d'éternité. voyez, la fécondité, elle est liée à l'éternité. Tout de suite, il y a un appel vers quelque chose d'éternel. Alors ça, c'est pas Aristote qui l'a inventé, ça. Non, non, ça fait partie de toute une vision. Platon l'a dit, mais pas du tout de la même façon. Et avant, ça a été dit aussi. Mais pour Aristote, c'est... Et c'est là où on voit très bien le génie d'Aristote. C'est qu'au milieu d'une quantité de choses qui sont données dans la tradition, il les situe exactement dans leur finalité. Il situe exactement dans sa finalité ce qu'on représente, ce besoin de se dépasser dans un autre être. Ce besoin d'éternité dans un autre être. Il s'agit d'une tendance naturelle à laisser après soi un être semblable à soi. C'est encore l'union de celui dont la nature est de commander avec celui dont la nature est d'être commandé. Ah. Second point, second élément de la communauté humaine. Alors ça, on va insister là-dessus, parce que ça, c'est capital. Les deux sont très importants. Le second point, donc le premier élément, la coopération dans la procréation. Deuxième élément, un qui commande et autre qui obéit. Aristote ne dit pas ça pour la procréation. Remarquez le mot. Il le dit pour le maître et l'esclave. Et nous reverrons ça. Mais essayez de comparer ça, parce que c'est quand même quelque chose de très très important à saisir. Et si on ne saisit pas ça, je crois qu'on ne voit pas l'importance de cette réflexion de philosophie politique, de saisir ce qu'est ce tissu de relations humaines dans l'activité humaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.